Vous êtes avec SBS French. Les principaux titres à l'actualité de ce mardi 19 avril 2022. En Ukraine, la Russie a entamé hier une offensive de grande ampleur sur le Donbass qui se trouve à l'est du pays. En Australie, deuxième semaine de campagne officielle avant les élections du 21 mai. Anthony Albanese est dans le Queensland et Scott Morrison en Australie occidentale. Et en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont dans la dernière ligne droite avant leur débat télévisé qui sera prévu demain soir, mercredi. En Ukraine, la Russie a donc entamé lundi son offensive sur le Donbass, cette province située à l'est du pays et déjà en proie à des tensions depuis 2014 entre militants pro-russes et nationalistes. Cette mise en marche des troupes russes dans la région a été annoncée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Now we can already state that Russian troops have begun the battle for the Donbass, for which they have been preparing for a long time. A significant part of the entire Russian army is now concentrated on this offensive. No matter how many Russian troops are driven there, we will fight. We will defend ourselves and we will do it every day. We won't give up anything Ukrainian and we don't need anything foreign.
Et parallèlement à cette attaque d'envergure qui mobiliserait au moins 50 000 soldats russes d'après les premières observations effectuées dans la région, la Russie envoie également des missiles à l'ouest du pays et notamment sur la ville de Lviv qui jusqu'à présent avait été relativement épargnée par le conflit. La Russie continue également de bombarder Kharkiv au nord-est du pays ainsi bien sûr que Mariupol, un port stratégique situé sur la mer Noire et assiégé depuis maintenant un mois. On fait le point avec Muriel Paradon pour RFI.
Lviv, c'est cette grande ville de l'ouest de l'Ukraine, située près de la frontière polonaise. C'est là que de nombreuses personnes ont trouvé refuge, fuyant les combats plus à l'est. C'est là aussi que plusieurs pays occidentaux ont déplacé temporairement leur ambassade, parce que jusqu'à présent, cette ville était relativement épargnée par les violences. Mais ce lundi matin, plusieurs missiles ont été tirés sur Lviv, faisant des victimes et des dégâts. Des entrepôts et un garage ont été touchés. Les Russes affirment avoir visé des cibles militaires, notamment un dépôt d'armes étrangères près de Lviv. Dans le nord-est du pays, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a encore été frappée par des bombardements ce lundi, comme c'est le cas depuis plusieurs jours. Là aussi, il y aurait des victimes. Mais c'est à Mariupol que les combats sont particulièrement intenses. Ce port stratégique du sud-est du pays, assiégé depuis le début de la guerre, n'est toujours pas tombé aux mains des Russes, selon les Ukrainiens. Le site sidérurgique d'Azovstal, qui s'étend sur 11 km², est l'une des dernières poches de résistance de la ville.
Et de leur côté, les Américains ont indiqué qu'ils allaient accroître leur livraison d'armes en Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a ainsi confirmé l'envoi accéléré d'armes pour un montant estimé à 800 millions de dollars américains. Et ce alors qu'il estime que l'Ukraine a besoin plus que jamais d'une aide militaire renforcée pour contrer l'offensive russe.
I mean, we have seen the Russians continue to flow in enablers, capabilities that will help them fight in the Donbass going forward. That's artillery, rotary aviation helicopter support, command and control enablers. And we do believe that they have reinforced the number of battalion tactical groups in the east and the south of Ukraine.
Les États-Unis sont par ailleurs en proie à une polémique d'une toute autre nature. Ces derniers mois, des dizaines de livres scolaires ont été interdits dans des États dirigés par des républicains. Dans leur viseur, des manuels abordant la question des minorités ethniques et ou sexuelles. Dernier exemple en date, la Floride qui vient d'interdire une cinquantaine de livres de mathématiques accusés de promouvoir, je cite, la théorie critique de la race. À Miami, les explications de David Thompson pour RFI.
Au total, 132 manuels scolaires de mathématiques destinés aux primaires ont été proposés par des éditeurs aux écoles de Floride cette année. Avant leur mise en circulation, tous ces ouvrages ont été passés au crible par le département d'éducation de l'État et sur ces 132, 54 n'ont pas passé le test. Ces livres de maths sont bannis des bibliothèques au motif qu'ils sont incompatibles avec les nouveaux critères éducatifs de Floride parce qu'ils contiennent des sujets interdits comme la théorie critique de la race. Ce concept universitaire visant à déconstruire le racisme systémique aux États-Unis est devenu l'un des repoussoirs de l'électorat conservateur. Il n'est pourtant pas enseigné ni aux primaires ni aux secondaires, mais il a été interdit cet été par le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui l'accuse d'endoctriner et de faire culpabiliser les enfants en leur enseignant l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation et des violences policières. Difficile de comprendre comment des livres de maths de primaire peuvent servir à diffuser une idéologie antiraciste. Les autorités de Floride ne fournissent aucune explication ni aucun exemple pour motiver cette censure, dénoncée par l'opposition démocrate comme une folle hystérie visant à galvaniser la droite. David Thompson, Miami, RFI.
En Australie, après les inondations du mois dernier, le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Dominique Perrottet, vient d'annoncer la création d'une nouvelle structure destinée à reconstruire et à renforcer les villes ravagées par les crues dans la région des Northern Rivers. Vu l'étendue des dégâts, cette structure ad hoc devrait se maintenir pour les 3 à 5 prochaines années, en tout cas aussi longtemps que nécessaire pour permettre aux personnes sinistrées de retrouver leur vie d'avant. C'est ce qu'a promis Dominique Perrottet.
We know that getting people back on their feet, getting people back into homes, rebuilding towns and communities takes time, and this corporation will ensure we build back stronger, better, and in a way that protects people well into the future.
L'Australie, c'est aussi une deuxième semaine officielle de campagne dans le cadre des élections fédérales. Et Anthony Albanese et Scott Morrison sont aujourd'hui en mission séduction dans des territoires où ils sont en difficulté. Le Premier ministre est ainsi en Australie occidentale où il existe un risque important pour la coalition de perdre plusieurs sièges de députés. Il a promis dans la matinée qu'il augmenterait le soutien déjà considérable que le gouvernement apporte au secteur minier, avec notamment la création d'un hub dédié à l'hydrogène dans la région de Pilbara, ainsi que la création d'un centre de recherche en partenariat avec l'université Curtin, dédié ce centre aux minerais dits critiques, comme par exemple le cobalt, le lithium et le nickel. Anthony Albanese est, lui, dans le Queensland, où les travaillistes ne détiennent que 6 circonscriptions sur les 30 possibles. Il y a notamment annoncé une augmentation du budget dédié aux victimes de catastrophes naturelles. Il a également démenti qu'il comptait nommer l'ancien Premier ministre Kevin Rudd ambassadeur à Washington, comme cela avait été écrit ce matin dans certains journaux. Pour ce qui est du Parti libéral, c'est toujours la zizanie à propos de Catherine Daves, la candidate désignée par Scott Morrison pour mener campagne dans la circonscription de Warringah à Sydney. Catherine Daves a par le passé tenu des propos polémiques à propos des personnes transgenres qu'elle a par exemple décrit dans des messages sur les réseaux sociaux depuis effacés comme des mutilés chirurgicalement et des personnes stérilisées. Si Scott Morrison lui a renouvelé son soutien, d'autres voix au sein du Parti libéral appellent à le lui retirer. C'est le cas notamment de Matt Kynne, trésorier de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Il a réaffirmé aujourd'hui sur ABC qu'il estimait que cette femme était inapte à remplir un rôle d'élu.
My view is that this person should be disendorsed because I do not believe she's fit for office. Describing Wear It Purple Day, a day that celebrates inclusion and diversity, that focuses on reducing bullying and suicide amongst young gay and lesbian kids, she described it as a grooming technique. She invoked the Nazis to attack trans people, comparing one case to the grudge trials of the Third Reich. Absolutely disgraceful. And she also said that half of all male trans people are sex offenders. I mean, that's just outright bigotry.
En France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont dans la dernière ligne droite avant le second tour dimanche prochain, dont l'issue, en raison d'une probable forte abstention cette année, reste encore assez incertaine. Pour ce qui est de la candidate du Front National, elle était en Normandie hier, son dernier déplacement avant le débat qui l'opposera mercredi à la télévision au président sortant. Une dernière sortie donc entachée par des accusations de détournement de fonds européens émises par l'Office de lutte antifraude, des accusations que Marine Le Pen a balayées d'un revers de main.
Alors les coups fourrés de l'Union européenne quelques jours avant le second tour, j'ai une grande habitude de cela et je pense que les Français ne sont absolument pas dupes. Je conteste évidemment absolument ces accusations dont je n'ai pas eu connaissance, ce qui déjà pose un problème en termes d'état de droit, dont on ne m'a fourni aucune preuve, aucun élément, malgré d'ailleurs les demandes que j'ai pu faire dans le cours de la campagne.
Ces révélations n'ont en tout cas pas privé la candidate du Rassemblement national d'un accueil chaleureux sur le marché de Saint-Pierre-sur-Dive, une commune normande où elle se trouvait donc lundi et qui l'avait placée en tête à l'issue du premier tour. On écoute le reportage de Julien Chavanne pour RFI.
Marine, président ! Courage, courage ! On les aura, on les aura ! On les aura !
Ici encore, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Jusqu'au bout, la candidate RN mène une campagne balisée en terrain conquis dans cette France qui vote pour elle.
Merci Marine. Bon courage à vous. Merci. On est derrière vous.
Merci. Une façon de se rassurer, de ne prendre aucun risque avant la grande épreuve du débat contre Emmanuel Macron. La candidate a prévu de s'isoler jusqu'à mercredi pour préparer ses angles d'attaque.
Comment faire émerger ce qui apparaît comme prioritaire? Voilà, c'est ça la question que l'on se pose. Ça consiste à ça, préparer un débat. On ne peut pas tout dire, donc il faut décider des sujets ou à l'intérieur des sujets, des éléments qui nous apparaissent structurants pour que l'ensemble des Français puissent comprendre quel est l'objectif de mon projet.
Que fera-t-elle de différent par rapport à son débat raté de 2017? Tout lâche Marine Le Pen qui va bûcher et se reposer les prochaines 48 heures, sauf changement de programme. L'entourage de la candidate n'exclut pas un nouveau déplacement pour ne pas laisser trop de terrain libre à Emmanuel Macron. Julien Chavanne, Saint-Pierre-sur-Dive, RFI.
Et nous reviendrons plus en détail sur cette élection présidentielle française dans quelques minutes, un peu plus tard dans notre émission. Pour terminer ce journal, évoquons également le footballeur portugais Cristiano Ronaldo qui vient d'être frappé par une tragédie personnelle. Le joueur du Manchester United a en effet annoncé sur les réseaux sociaux que son fils était décédé peu de temps après sa naissance. Sa femme, Georgina Rodriguez, avait accouché de jumeaux, une fille et un garçon. Cristiano Ronaldo a précisé que c'est la survie de cette petite fille qui lui donnait la force de garder un peu d'espoir. Et puis pour terminer, on jette maintenant un œil à la météo du jour en Australie. Grand soleil et 27 degrés prévus à Perth. Il fait très beau également à Sydney avec 26 degrés, mais des averses pourraient apparaître en fin de journée. Idem à Adélaïde où le thermomètre affiche 20 degrés aujourd'hui. Temps pluvieux à Melbourne avec 17 degrés, 28 degrés et du soleil à Brisbane. Et grand soleil également à Darwin où il fera jusqu'à 34 degrés ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.